Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je vais faire quelque chose un peu différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent pour moi, peut-être pas pour vous, mais on a quelques versets qui sont liés à notre texte aujourd'hui. Donc si quelqu'un peut lire ces deux textes pour nous, quelqu'un peut lire 1 Timothée 5, 3 à 8. 1 Timothée 5, 3 à 8, et notre Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27. Mais premièrement, 1 Timothée 5, 3 à 8. Si quelqu'un peut lire pour nous.
Occupe-toi des œuvres avec respect. Je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à vivre leur piété en prenant soin de leur famille, qu'ils s'acquittent de leur dette envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. La veuve est restée, donc qui est restée vraiment seule, est privée de soutien, mais son espérance en Dieu et passe ses jours et ses nuits à faire toutes sortes de prières. Quant à celle qui court après les plaisirs, elle est déjà morte, quoique vivante. Transmets-leur ces avertissements, afin qu'elle mène une vie irréprochable. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant.
Merci Michel. Et notre Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27.
Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Et après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée. Elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde.
Merci, merci Ambroise. Et notre texte aujourd'hui, c'est Marc 12. Marc 12, 38, à chapitre 13, verset 2. Marc 12, 38. À chapitre 13, verset 2. Et j'utilise la traduction aussi, la colombe. Marc 12. Marc 12, 38. Lisons ensemble. C'est Jésus qui parle, Jésus qui enseigne dans le temple de Jérusalem. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Et assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que qu'un de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Peu après notre déménagement à Ponchara, Kendall, ma femme, a fait la connaissance de notre voisine. Et cette voisine, nous pensions être veuve. Et comme je n'avais pas participé à la première conversation, j'ai demandé à Kendall ce qu'elle avait appris à son sujet. Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce que nos enfants bruyants la dérangent? Ou a-t-elle eu du mal à comprendre son accent américain? Mais la seule information que Kendall m'a donnée, c'est que cette femme se disait « jeune veuve ». Et je pensais que c'était tellement bizarre. Mais j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais aider cette femme en tant que son voisin chrétien. Quelques semaines passent et nous ne la revoyons pas. Nous avons demandé à nos autres voisins s'ils connaissaient cette femme, mais ils ne semblent pas connaître une jeune veuve, et aucun de nos autres amis ne comprend pourquoi elle est appelée comme ça. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, lorsque Kendall et moi avons enfin eu une autre conversation avec elle, que nous avons réalisé qu'elle ne se disait pas jeune veuve, mais qu'elle s'appelait en fait Geneviève. Le français, c'est difficile pour nous, Américains. Donc, je ne sais plus si elle est vraiment veuve. Et bien sûr, je ne vais pas lui demander. Mais peu importe, nous continuerons à faire de notre mieux pour être de bons voisins chrétiens. Et je sais que cela peut paraître un peu étrange, mais certains de mes amis, et en fait, peut-être la plupart de mes amis les plus proches, et celles qui m'encouragent le plus sont des femmes célibataires plus âgées. Et le plus souvent, ce sont des veuves. Dans chaque église où ma famille a servi, ces femmes étaient les piliers de la communauté. Et elles m'ont beaucoup appris simplement en étant des chrétiennes fidèles et des servantes humbles. Du coup, je n'ai pas trouvé étrange qu'une autre veuve devienne l'une de mes amies les plus proches ici en France. Et comme les autres veuves chrétiennes que j'ai connues, elles possèdent une grande sagesse et une grande expérience à partager. De plus, j'ai moi-même trois grands-mères qui sont veuves. Ça inclut la mère de ma belle-mère. Et naturellement, je leur porte beaucoup d'affection. J'ai un grand respect pour les femmes qui doivent mener leur vie seules. Et je sais que vous avez le même respect. Et nous savons que Dieu chérit énormément ces femmes. Mais le passage que nous étudions aujourd'hui parle d'une veuve très célèbre, et peut-être l'une des veuves les plus célèbres de la Bible. Cependant, même si ce passage mentionne une veuve, il ne traite pas forcément des veuves. Ce n'est pas le sujet de notre texte aujourd'hui. En fait, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps et qui ont entendu ces versets prêchés à plusieurs occasions pourraient s'attendre à ce que nous parlions aujourd'hui de la générosité extraordinaire de cette veuve. Mais non, ce n'est pas non plus le sujet de ce passage. Cette histoire illustre en fait plusieurs choses dont aucune n'a rien à voir avec la générosité des veuves ou le fait que vous donniez votre argent à l'église. contraire, Jésus utilise cette scène pour montrer le système de valeurs des hommes pécheurs et ignorants en contraste avec les valeurs mêmes de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler que même s'il est vrai que le Saint-Esprit a inspiré chaque mot des Écritures, parce que c'est vrai, il l'a fait, il n'a pas inspiré l'organisation textuelle de la Bible. Il n'est pas éditeur. Cela ne veut pas dire que les mots de l'Écriture ne sont pas fiables ou ont été modifiés, mais comme les textes originaux, ont été traduits dans d'autres langues, et qu'au fil du temps, notre façon de communiquer a évolué, certaines personnes ont divisé la Bible en chapitres et en versets afin d'en faciliter la lecture. Dans la plupart des cas, cela est très utile pour mémorisation ou autre chose, mais dans certains cas, cela peut nous donner une compréhension biaisée du sens réel du texte. Cependant, le sens du texte n'a jamais changé. Mais notre compréhension de ce sens peut parfois être faussée par la façon dont nous le lisons. Dans Marc 12, notre texte aujourd'hui, certains éditeurs ont proposé le titre « La générosité de la veuve ». Et ce titre, c'est pour résumer ces quelques versets. Et je pense que beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens depuis un certain temps avons entendu des sermons ou des enseignements qui utilisaient ce passage pour renforcer l'idée que ce que la veuve a fait en donnant au temple tout ce qu'elle avait pour vivre était une chose bonne et noble. Je sais, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, on m'a dit que Jésus félicitait cette pauvre femme d'avoir fait passer le travail du temple avant ses propres besoins et qu'il condamnait tous les autres qui ne faisaient pas assez de sacrifices. En général, cet enseignement était suivi d'une exhortation invitant les membres de l'Église à donner plus afin que l'Église puisse financer son prochain grand projet. Mais l'ironie ici est que dans ce passage, Jésus condamne clairement le système religieux de l'époque qui profitait des pauvres pour financer ses grands projets. Si nous suivons le raisonnement selon lequel Jésus admirait les actions de la veuve, alors la seule conclusion que nous pouvons en tirer est que Jésus souhaite apparemment que nous donnions 100% de tout ce que nous avons aux institutions religieuses, puis que nous rentrions chez nous pour mourir. Car c'est ce qu'a fait la veuve dans l'histoire. Le texte grec dit littéralement « Elle a donné sa vie. » Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, tandis que les riches autour d'elle, au lieu de prendre soin d'elle comme Dieu leur avait demandé, faisaient grand étalage de leurs dons. Les offrandes financières qui ont été données n'ont pas servi à soutenir les moins fortunés, ni à rendre le culte plus accessible aux milliers de personnes qui visitaient chaque jour le temple de Jérusalem. L'argent donné a servi à soutenir un système religieux qui avait convaincu le peuple que Dieu ne les bénirait que s'ils donnaient leur argent aux dirigeants du système. C'est les scribes et les pharisiens dévorant les maisons des veuves pour leur propre profit personnel. Peut-être que cela vous semble familier. Il y a trop d'églises qui prêchent un évangile de prospérité, mais pas prospérité pour les vrais gens, mais pour les dirigeants. Et on vient de passer le 508e anniversaire où Martin Luther a cloué ses 95 thèses contre ces pratiques sur la porte de l'église de Wittenberg. Et cet abus d'autorité religieuse n'est pas un cas unique. C'est un péché courant qui existe depuis le début. Et ce péché, il est dû à une perversion des valeurs. Nous, les hommes pécheurs, Nous oublions régulièrement que Dieu nous a donné des principes bien définis pour vivre. Et nous avons malheureusement l'habitude de mettre de côté les valeurs de Dieu pour satisfaire les nôtres. Et ça, c'est, je crois, le véritable sujet de ce texte. Non pas une veuve généreuse, ni même les scribes et les pharisiens comploteurs, mais nos principes erronés contrastant avec ceux de Dieu. Donc, selon cette compréhension du texte, le message aujourd'hui tente de répondre à deux questions soulevées par ce passage. Premièrement, qu'est-ce que nous avons tous considéré à tort comme étant important? Et deux, qu'est-ce que Dieu considère comme important? C'est simple, c'est vraiment simple. Mais tout d'abord, je crois que cette brève histoire sur le séjour de Jésus au temple de Jérusalem et son enseignement là, révèle que nous, tous les hommes et toutes les femmes, que nous occupions ou non une position de leadership, que nous soyons riches ou pauvres, nous tous, nous valorisons avant tout l'apparence ou l'image. Pourquoi les scribes se promènent-ils dans les marchés en portant des vêtements voyants et en se donnant en spectacle? Parce que cela leur permet d'attirer l'attention et de gagner en prestige. Et que les gens tombent dans le piège, les gens normaux, les gens dans le marché, les gens pauvres et pas puissants. À l'époque du Christ, les gens tenaient en haute estime les hommes qui avaient suffisamment de richesses pour porter de beaux vêtements. Ils admiraient les hommes qui savaient bien parler et qui étaient charismatiques, et leur accordaient des positions élevées parce qu'ils avaient belle allure et s'exprimaient bien. C'est comment aujourd'hui aussi. Et ces scribes et les pharisiens étaient ceux qui avaient des connaissances et des relations, non seulement avec d'autres personnes puissantes, mais aussi avec Dieu lui-même. Car les scribes, ils étaient parmi les seuls à savoir lire, et encore plus, ils étaient parmi les seuls qui pouvaient enregistrer la parole de Dieu. Nous avons tendance à penser de la même manière aujourd'hui. C'est pourquoi notre société a tant de personnes célèbres qui ne le sont que parce qu'elles sont belles et qu'elles savent captiver les gens par leur charme. C'est comment en France, ou en aux États-Unis, bien sûr, en Corée du Sud, ou en Niger, n'importe quel pays, c'est une expérience humaine universelle. Nous sommes facilement charmés par les choses et les personnes qui semblent belles. Et on sait que la beauté est souvent un outil de l'ennemi. Et c'est vrai que nous sommes assez habitués à ce que certains chefs religieux profitent également de cette vulnérabilité. Dans notre texte, Jésus nous avertit « Gardez-vous des scribes, ils désirent se promener en robe longue, ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas, ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils portent de longues robes et récitent de longues prières. Ils ont toute l'apparence extérieure de quelqu'un qui aime et qui sert Dieu. Mais cela ne les sauve pas du jugement brutal de Jésus. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Nous savons, c'est en Jacques 3, verset 1, nous savons que les enseignants de la parole de Dieu sont tenus à un niveau élevé par le Seigneur. Et ici, Jésus lui-même, il le dit très clairement. Ces hommes qui accordent plus d'importance à leur apparence qu'à la parole de Dieu, qui sont chargés d'enseigner, n'échapperont pas à la juste punition de Dieu pour leurs péchés. Mais il n'y a pas que ces hommes, ce n'est pas juste les pharisiens. et les scribes. Après avoir condamné les scribes pour leur égoïsme, Jésus s'assoit dans la cour du temple face au trésor. Et ce trésor était situé dans les cours extérieures où les hommes, les femmes et même les étrangers pouvaient se trouver. Et c'est là que Jésus et les apôtres dispensaient la plupart de leurs enseignements. La boîte à argent était donc parfaitement placée pour que le plus grand nombre puisse donner, mais aussi pour que le plus grand nombre puisse voir qui donnait. Les riches qui donnaient de grosses sommes étaient bien connus, car ils le faisaient à la vue de tous dans la cour la plus fréquentée. Et n'oubliez pas, même si cela semble évident, qu'au premier siècle, les cartes bancaires n'existaient pas. Donc imaginez le spectacle d'une personne très riche venant mettre beaucoup d'argent dans le coffre. Jésus observe cette scène se dérouler devant lui. Il est donc évident que ces riches mettent beaucoup d'argent dans le tronc. Peut-être un serviteur portait un lourd coffre rempli de pièces d'argent qui distribuait dans le trésor, pièce par pièce. Tchink, 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 un après un autre, peut-être pendant des minutes, même des heures. Et j'ai déjà mentionné les 95 thèses de Luther contre la vente d'indulgence par l'Église. Mais l'un des principaux instigateurs du dégoût de Luther pour ses pratiques de l'Église à son époque était un homme nommé Johann Tetzel. Et je pense qu'il aurait été très à l'aise avec ce qui se passait dans le trésor du temple. Cet homme, Tetzel, il est célèbre pour avoir manipulé des milliers de personnes et pour avoir été l'un des collecteurs de fonds les plus efficaces de l'Église catholique. Il a convaincu les gens de donner tout ce qu'ils possédaient afin de libérer leurs proches du purgatoire. Et sa mission consistait à voyager et à collecter des fonds pour la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et afin d'encourager les paysans à donner tout ce qu'ils pouvaient pour ce projet, il avait une petite rime, un peu cynique mais un peu amusante aussi, à l'origine en allemand. Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant l'âme s'envole. Ou une autre façon de dire, lorsque l'argent résonne dans le coffre, l'âme bondit du purgatoire. À l'époque de Jésus, les riches aimaient aussi entendre le bruit de leur argent. Et ils étaient célébrés pour leur démonstration ostentatoire de générosité. Entre guillemets. Aujourd'hui, il est facile pour nous, qui sommes normales, qui sommes au bas de l'échelle ou au bas de la hiérarchie, de pointer du doigt les personnes au pouvoir et de leur attribuer la responsabilité de tous les maux, comme les riches, les puissants. Mais on n'est pas fini avec l'histoire. L'histoire continue. En sortant du temple, certains disciples ont attiré l'attention de Jésus sur l'architecture incroyable du temple. Et pour être honnête envers les disciples, je suis sûr qu'il était vraiment magnifique. Les descriptions de l'art et du talent artisanal du temple d'Hérode sont vraiment spéciales. En fait, notre famille, cet été, on est allé en Turquie et on a visité la ville d'Éphèse, la ville qui est dans la Bible. Et nous avons vu des bâtiments très similaires au temple. Et les détails faits à la main qui ornaient ces bâtiments étaient incroyables. Et je peux facilement imaginer que le temple était encore plus impressionnant que les ruines que j'ai vues. Mais Jésus n'était pas impressionné avec le temple. Ce magnifique édifice, le temple, dont la construction a déjà pris 40 ans, projet de vanité d'Hérode le Grand est construit sur le dos des gens ordinaires qui ont été convaincus que ce projet valait la peine de donner leur vie. Tout comme les pharisiens qui le remplissent, c'était un tombeau blanchi. À part l'enseignement de Jésus et des apôtres, aucun culte acceptable n'y est pratiqué. Mais il est certainement très bon. Et les disciples, bien intentionnés, avaient été trompés en croyant que c'était l'apparence du temple qui plaisait à Dieu. Leur agent et leur sacrifice servaient sûrement une cause juste. C'était leur pensée. Et Dieu voulait vraiment que son temple coûte plus cher et soit plus beau que tous les autres bâtiments environnants. Orné d'or, de pierres précieuses, dans un style architectural romain. Mais Jésus dit, non, ça ne sert à rien. En fait, toute cette belle structure allait s'effondrer parce qu'elle n'avait en réalité rien à voir avec un véritable culte. Et 70 ans après Jésus-Christ, lorsque les Romains en eurent assez des rébellions constantes des Juifs, ils ont détruit le temple dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs. Il n'en resta pas pierre sur pierre, comme Jésus a dit. Les disciples, tout comme les riches, croyaient que Dieu se souciait de l'apparence extérieure. Et si nous réfléchissons un instant sur l'absurdité de cette idée, les disciples remarquent les décorations et l'architecture et s'attendent à ce que Dieu lui-même soit impressionné. C'est franchement ridicule. Et ce temple n'était qu'une autre tour de Babel. Et même si les disciples avaient personnellement marché avec Jésus, ils continuaient à croire à tort que la sainteté pouvait être atteinte en construisant quelque chose d'assez grand. Nous sommes tous fragiles et facilement trempés. Romains 3, 10, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Il n'est pas nécessaire d'être riche ou célèbre pour être obsédé par l'apparence. Comme les scribes, qu'il a cherché à travers leur siège d'honneur et leur salutation publique, nous accordons de l'importance au respect et à l'honneur, alors même que Jésus lui-même était haï et crucifié. Nous voulons que les gens nous voient d'une certaine manière. Parfois, même en tant que chrétiens, nous voulons être bien considérés par ceux qui ne sont pas croyants et nous cherchons souvent à changer l'opinion de ceux qui ne nous aiment pas en compromettant nos croyances afin de paraître plus acceptables. C'est ça la malédiction du péché qui nous rend comme ça. Un grand nombre de péchés peuvent être regroupés sous cette mauvaise compulsion d'être aimé et admiré. Parfois, nous sommes tentés d'essayer de nous élever nous-mêmes et d'élever notre propre position, notre propre apparence, où nous pouvons essayer bêtement de faire paraître Dieu pour plus majestueux qu'il est déjà. C'est pourquoi nous avons tendance à nous concentrer autant sur ce que l'Église fait plutôt que sur ce que l'Église est censée être et qui elle est censée servir. Et cela nous amène à la réponse à notre deuxième question. Si nous tous, y compris les croyants, avons commis l'erreur de valoriser l'apparence, qu'est-ce que Dieu valorise et désire que nous valorisions à la place? En se référant à notre texte dans Marc, il est assez clair ce que Jésus estime important dans ce cas précis. Et c'est les veuves. Ce n'est pas seulement parce que Jésus a pitié de ces femmes, de cette femme en particulier, ou parce qu'il a une expérience personnelle avec les veuves, comme certains d'entre nous. C'est parce que les veuves, tout comme les orphelins, représentent les plus démunis de la société à cette époque. Elles dépendaient entièrement des autres pour s'occuper d'elles et subvenir à leurs besoins. La loi de Moïse contenait des instructions concernant la prise en charge des veuves, et c'est l'une des instructions qui n'a jamais été reléguée dans le Nouveau Testament. Au contraire, la loi a été renforcée à plusieurs occasions. Dans un monde où chacun se préoccupe principalement de sa propre position et de son propre plaisir, Jésus non seulement se soucie des veuves et des orphelins, mais il dit aussi de les imiter. Alors, à quoi Dieu accorde-t-il de la valeur? Dieu accorde de la valeur aux gens plutôt qu'à leur position. Il vous aime. Il nous aime. Mais pas pour ce que vous pouvez lui offrir. Il vous a créé dans le seul but que vous lui apparteniez. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Et ce n'est pas parce qu'ils sont simples ou parce qu'ils croient facilement, mais parce qu'ils ont couru vers lui sans être encombrés par une fausse idée de leur valeur. Ils ont couru vers Jésus les mains vides, ne voulant que recevoir ce qu'il leur offrait. Peut-être cela rappelle une autre veuve dans l'Écriture. La veuve Ruth vient se prosterner aux pieds de Boaz et lui avoue qu'elle dépend entièrement de lui pour la sauver de sa triste situation. Et voici la promesse de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu sur terre pour mourir et ressusciter. Nous sommes incapables de nous élever au-dessus de notre condition et de nous sortir de la condition de misère dans laquelle nous nous trouvons en tant que les humains. Nous sommes veuves et orphelins, que nous le sachions ou non, et notre seul consolateur et rédempteur est le Seigneur lui-même. Dieu aime sa création. Il vous aime. Il vous chérit. Son amour et sa compassion nous conduisent à la repentance et à la foi. Et en tant que bénéficiaires de cet amour, nous devons maintenant aimer les autres. Et Jésus parle beaucoup de l'amour comme étant la principale caractéristique de ses enfants. Juste avant que Jésus parle des scribes et des pharisiens en Marc 12, il a été questionné sur le plus grand des commandements. Et Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimez le Seigneur. Notre foi, il a dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » En Jean 15. « Aimez-vous, aimez vos frères et sœurs. » Notre foi, il a dit, « Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Luc, chapitre 6. Aimez le monde. N'oubliez pas, ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce n'est pas cette magnifique église, cette magnifique temple protestante qui permet aux gens de savoir qui vous êtes. C'est la façon dont vous traitez les gens lorsque vous quittez cet espace. C'est votre amour, c'est notre amour en tant que chrétien. Jean 13, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, merci. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Honnêtement, c'est une leçon que Dieu a dû m'enseigner au fil de nombreuses années. Et je n'ai certainement pas toujours eu la, perspective que Dieu m'a donnée aujourd'hui, pendant une grande partie de ma vie chrétienne, et même lorsque j'ai commencé à enseigner dans l'Église, je croyais que les personnes qui avaient de la valeur étaient celles qui pouvaient m'aider à atteindre mes propres objectifs. Je cherchais, j'investissais dans ceux qui je jugeais les plus aptes à accomplir cette tâche. Et j'étais plutôt impatient avec ceux qui ne pouvaient pas répondre à mes attentes élevées. Mes valeurs étaient complètement désalignées, même si je croyais servir Dieu. Regarde Jésus, quelle pierre, quelle construction. Je pensais que Jésus était impressionné par ce que je faisais pour lui. Mais j'avais oublié d'aimer les gens dans ma quête pour faire le bien. Peut-être pas, c'est pas une histoire bizarre pour quelques-uns. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu la même expérience. Mais ne tombons plus dans ce piège. Ne tombons plus dans ce piège. Nous sommes tous de pauvres mendiants. Encore, c'est une citation de Luther. Nous sommes tous de pauvres mendiants. Et notre valeur réside uniquement, pas dans nos dons, dans nos actions, mais notre valeur réside uniquement en Christ et en son œuvre accomplie. Alignons donc nos valeurs sur celles de Dieu. Aimons Dieu et aimons les autres. Amen. Prions.